Chapitre 17. Anxiété de Bengali. Tous les jours, Bengali allait attendre Georgette à un endroit convenu, la faisait monter dans la voiture qu'il avait amenée et les deux amants allaient passer une heure dans le petit appartement loué pour ses entrevues quotidiennes. Depuis quelque temps, Bengali remarquait la tristesse toujours croissante de sa maîtresse. Celle-ci, de son côté, avait constaté chez son amant la perte de la gaieté si riche et si communicative qu'il possédait lorsqu'elle l'avait connue. Chaque jour, se disait-elle, il paraît plus rêveur, plus préoccupé que la veille. Il ne répond plus à mes questions que d'une façon distraite, comme s'il pensait à autre chose. Cet amour ardent qu'il m'affirmait avec un tel accent de sincérité, était-ce une comédie? Oh non, ce serait horrible. Il était sincère, j'en suis sûr, mais son caractère léger a-t-il pu se transformer tout d'un coup? La possession n'a-t-elle pas amené chez lui la satiété? Ne m'aime-t-il plus? Quand l'explication qu'il me demande de ma tristesse m'arrache l'aveu de mes inquiétudes, il proteste énergiquement avec un redoublement de tendresse contre mes craintes et bientôt, après ses réflexions et ses serments, son visage trahit de nouveau des soucis qu'il me cache, des mystères envers moi, qui doit devenir sa femme et pourquoi. La cause de ses soucis, la demande de la main d'Athalie faite par lui avant le duel qui avait eu pour Georgette les conséquences que l'on sait. Ce prétendu séjour à Nice qui ne pouvait se prolonger plus longtemps, et le retour imminent de Mademoiselle Pied-de-Vache, la première visite à faire à la famille Jujube, etc., etc. La pauvre Georgette ignorait tout cela. Un soir, dès en montant dans la voiture où son amant l'attendait, elle fut frappée de l'altération de ses traits et de sa voix. « Mais qu'as-tu ? » lui demanda-t-elle, inquiète. « Ben, mon ami de Nice, lui dit-il, vient de m'envoyer une lettre de ma tante, m'annonçant son retour à Saint-Mandé pour demain. « Eh bien, c'est cela qui te trouble à ce point ? C'est qu'il me faut me réinstaller chez moi, me montrer comme nouvellement de retour de Nice, interrompre cette existence à deux à laquelle je m'étais habitué et que, comme un enfant oublié du lendemain, au milieu des joies du jour, je croyais ne jamais finir. « Oh, mon chéri, répondit Georgette avec transport, voilà donc ce qui causait tes soucis. » Bengali pouvait, d'un oui, rassurer complètement son ami. Mais ce oui, il ne le prononça pas. C'est que la pensée de ses projets de mariage, auxquels il avait adhéré de bonne foi après son renoncement à Georgette qu'il croyait mariée, cette pensée hantait plus que jamais son esprit. Que faire ? Signifiait son refus d'une alliance qu'il avait sollicitée. Accablé sous un pareil scandale, sans prétexte aucun, une famille ridicule peut-être, mais parfaitement honorable. S'aliéner sa tante, sa bienfaitrice, celle à qui il devait tout. Telles étaient les préoccupations auxquelles le malheureux jeune homme était en proie et qu'il ne pouvait faire connaître à Georgette. Mais elle, heureuse des regrets de la cessation de l'existence à deux, par lui manifestée, n'attendit même pas la confirmation de ce qu'elle croyait avoir deviné et s'écria toute joyeuse « Eh bien, tant mieux! Tu ne pouvais pas demander ma main à ma marraine, puisque tu étais censé loin de Paris. Maintenant, tu pourras faire la démarche et je prierai tant ma marraine qu'elle consentira à nous marier. » Bengali ne répondit pas. Georgette, surprise, le regarda puis lui dit « Tu n'as donc pas entendu ce que je t'ai dit ? Si, répondit-il avec embarras. Eh bien alors, tu iras demain. Non, demain, impossible, je vais chez ma tante. Oui, c'est juste. Eh bien, après-demain. Après-demain, c'est que... Mais c'est que quoi? Demanda Georgette avec inquiétude. C'est que je suis très mal avec Monsieur Maroquin et je crains. Mais Monsieur Maroquin n'a aucun droit sur moi. Oui, mais toi-même m'as dit que sa femme tremblait devant lui et lui cédait en tout. Oh, ça, voyons, murmura la pauvre fille anxieuse. Cette domination de ma marraine par son mari, oh, oh, je ne vois pas de raison pour qu'elle cesse, et si elle t'arrête maintenant, elle t'arrêtera toujours. Le malheureux amant, affolé d'amour pour sa maîtresse, ne savait que lui répondre, et quand il la vit éclater en sanglots, se désespérer, l'accuser de vouloir l'abandonner, il l'attira sur lui, la couvrit de baisers, redoubla ses protestations de tendresse infinie, d'amour exclusif de tout autre, jura de faire tout, absolument tout, ce qui dépendrait de lui pour un résultat qu'il désirait autant qu'elle. Georgette put prendre cette formule vague pour une promesse de faire la démarche qu'elle désirait et rentra chez elle pleine de bonheur et de confiance. Pour Bengali, le tout, ce qui dépendrait de lui, il entendait de tout ce qu'il pourrait auprès de sa tante pour la faire rompre des projets qu'elle avait caressés. Le lendemain donc, il arrivait chez elle. La brave dame lui prit la tête à deux mains, l'embrassa 10 fois, 20 fois. « Ah, tu es accouru de la réception de ma lettre, lui dit-elle, tu es un amour. Tiens, que je t'embrasse encore. » Et elle lui reprit la tête, elle lui donna de nouveaux baisers. Alors, l'éloignant un peu d'elle pour mieux contempler sa bonne mine de santé, elle se rappela sa douleur, ses angoisses, quand elle l'avait vu dans son lit, évanoui et blessé peut-être mortellement, et tout à la joie de la guérison complète de l'être chéri qu'elle avait craint de perdre, ce furent de nouveaux baisers. À cet élan d'expansion maternelle succéda un air d'étonnement. « Mais je ne vois pas ta gaieté ordinaire, tu as même un air de tristesse. » La bonne entra à ce moment et demanda si elle devait servir le déjeuner. « Mais certainement, sert, répondit la maîtresse. Puis à son neveu, « Content bien te voir ce matin, je vais faire un petit déjeuner dont tu te lècheras les pouces. Voyons, assieds-toi là, là près de moi, et causons. »« Oui, ma tante. »« Eh bien, comment avez-vous passé votre séjour là-bas ?» « Il paraît que c'est très pittoresque, l'Auvergne. »« Oui, très pittoresque. Oui, mais toi, vous ne vous êtes pas ennuyé? Avez-vous fait l'ascension du Puy-de-Dôme? Nous causerons de tout cela une autre fois. Parlons de toi, de tes amours. »« Dame, ma tante, j'étais à Nice et... »« Sans doute, mais toi et ta future famille, vous avez dû entretenir une correspondance. »« Ah, au fait, j'oubliais de te dire. Tu vas voir ton futur beau-père. » « Quand ça, ma tante ?» demanda le jeune homme avec inquiétude. « Ce matin, tout à l'heure, je l'attends. En réponse à l'annonce de mon retour à ses chers amis, il m'a écrit qu'il viendra aujourd'hui. « Oui, ma tante, oh, ça me contrarie bien. J'avais à causer sérieusement avec vous, très sérieusement, devant lui. C'est impossible. » Mademoiselle Pied-de-Vache le regarda avec étonnement. « Mais comment, de quoi s'agit-il donc de si sérieux qui ne peut pas se dire devant ton futur beau-père? Ça n'a pas de rapport avec le mariage, je suppose. »« Au contraire, ma tante, c'est de ce mariage que je voulais vous parler. Ah, ça, mais qu'est-ce qu'il y a? Interrogea la tante avec inquiétude. Mais il y a que... Voyons, ma tante, ma bonne tante, vous ne voudriez pas me rendre malheureux, n'est-ce pas? Ah, je vois le coup, s'écria Mademoiselle Pied-de-Vache. Je le connais, tu me l'as déjà fait. Tu ne veux plus te marier. Oh, si, ma tante, oh, si, je ne demande que ça. Ah, à la bonne heure, tu m'as fait une peur. Eh bien alors, cette chose sérieuse, très sérieuse. Oui, je veux me marier, mais avec une autre. La vieille demoiselle sursauta. Avec une autre? Mais est-ce que tu te fiches de moi? De cette pauvre petite qui s'est embéguinée de toi, je ne sais pas pourquoi, de son père, de sa mère, de tout le monde? Mais tu as demandé la main de la jeune fille, on te l'a accordée, et maintenant? Mais c'est vous, ma tante, qui avez voulu, c'était pour vous plaire. Mais je ne t'ai pas traîné de force chez ces excellents amis. Tu m'y as accompagné de bon gré. Oui, parce qu'à ce moment-là, je n'aimais pas encore celle que... Ah, je vois l'affaire. Quelque intrigante que tu as trouvée à Monaco, car tu as dû aller à Monaco, qui t'a entortillé, l'héritier de Mademoiselle Pied-de-Vache. Elle s'est dit bonne affaire, entortillons le jeune daim qui doit hériter de la vieille. Vous vous trompez, ma tante. Celle que j'aime n'est point une coureuse de casino. C'est une honnête jeune fille vivant de son travail. Oui, qui passe les nuits pour nourrir sa vieille mère. Oh, je la connais, celle-là. Non, ma tante, écoutez-moi. Rien, 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 cria Mademoiselle Pied-de-Vache. Je t'ai toujours cédé, je t'ai toujours gâté. C'est le tort que j'ai eu. Cette fois, je tiendrai bon et je ne romprai pas des projets arrêtés d'accord depuis longtemps. Je ne jetterai pas le chagrin de ridicule dans une famille honorable pour te laisser satisfaire une amourette comme tu en as eu tant. L'élan de colère épuisé, la vieille demoiselle continua sur un ton enjoué. Bon, je ne te le reproche pas, tes amourettes. Ah, grand Dieu, tu me connais, mon cher enfant, tu sais si je suis rigide sur ce chapitre-là, l'amour. Ah, Seigneur, comme je comprends ça. Tu le sais bien, garnement. J'ai été la première à te dire, amuse-toi pendant que tu es jeune, fais l'amour, il y a encore que ça. Moi-même, quand j'étais... Enfin, j'allais dire des bêtises. C'était la corde sensible qui venait de vibrer au souvenir du passé. Bengali saisit la propos. Et il allait attaquer par son côté faible celle de qui il dépendait, lorsque la bonne annonça M. Juju Bess. Bengali eut un brusque mouvement d'impatience. Non, recevez-le, ma tante, dit-il, moi je ne veux pas qu'il me voie. Et veux-tu bien rester là? Et le saisit par le bras pour le retenir. Pas en ce moment, ma tante, il me serait impossible de lui dissimuler mon embarras. Une autre fois, oh, demain, après-demain, mais en ce moment ne m'obligez pas. Je ne saurais que lui dire, tandis que vous... Et il s'élança dans la chambre voisine en entendant les pas du nouveau venu. Mademoiselle Pied-de-Vache acheva la phrase, tandis que moi... Je saurai ce que je dois dire. Eh bien, alors, je le dirai, et ça ira tout seul. Jujube entra. J'accours aussitôt la nouvelle de votre retour, dit-il. J'y comptais bien, et je vous attendais, dit-elle. pour me dire que nos projets ne peuvent plus avoir de suite. Oh, je m'y attendais, je... Comment ne pas avoir de suite? Mais au contraire, je tiens plus que jamais à leur prompte réalisation. Vous n'avez donc pas vu votre neveu? Si, à peine de retour de Nice, il est accouru ici. Ah, de Nice, dit Juju en souriant. Il vous a dit qu'il arrivait de Nice? Ben, vouliez-vous qu'il vînt? Ben, de Paris, dont il n'a probablement pas bougé. Hein? Ben, je crois qu'il a été à Nice, comme moi. Qu'est-ce que vous me dites là? Un de ses amis l'a rencontré à Paris il y a 15 jours, 3 semaines, ayant une jolie fille au bras. Non, ce n'est pas possible, on a pris un autre pour lui. J'ai toutes ses lettres datées de Nice, mises à la poste à Nice. La dernière m'annonçant son retour est datée d'il y a 3 jours. Mais vous-même, vous avez dû en recevoir. Oui, oh, j'en ai reçu 3 et bien singulières pour un amoureux. Jujube, alors, montra à Mademoiselle Pied-de-Vache les 3 lettres où le futur époux parlait de tout, excepté de son amour et du projet de mariage, et les terminait par la formule « mille choses à ces dames ». Enfin, vous en avez reçu, donc il était à Nice. La forme n'a pas d'importance. Je pourrais visiter une personne qui a reçu des lettres brûlantes de plusieurs prétendus épouseurs qui l'ont parfaitement lâchée après. Après quoi? Demanda Jujube. Ben, après m'avoir, enfin l'avoir, veux-je dire, demandé en mariage. Enfin, demanda Jujube, que vous a-t-il dit au sujet de nos projets? Ben, ses intentions n'ont pas changé. S'il n'est pas allé tout de suite chez vous, c'est qu'il a cru devoir accourir à moi tout d'abord, mais dès aujourd'hui, vous nous verrez, lui et moi. Bref, Jujube, qui ne demandait pas mieux que de revenir au mariage qu'il croyait bien rompu, sa fille d'ailleurs refusant formellement d'épouser Pistache, Jujube se retira, enchanté du rétablissement des choses et tout prêt à tendre les bras à son futur gendre. Bengali ayant écouté à la porte, sa tante n'eut pas à lui répéter sa conversation avec Jujube et la situation pour lui était nette. Elle était tout entière dans le célèbre dilemme se soumettre ou se démettre, et se démettre, c'était renoncer à l'affection et à l'héritage de sa tante, qu'il avait élevée, à qui il devait tout, et qu'il lui faudrait affliger en échange de sa tendresse et de ses bienfaits. Mais se soumettre, c'était abandonner Georgette, Georgette dont il était éperdument amoureux, et qu'il faudrait désespérer par un abandon qu'elle ne méritait pas. Il fit ce qu'en pareil cas tout autre eût fait à sa place. Il laissa sa tante lui parler du mariage, l'écouta sans répondre, réfléchit, mais ne l'heurta pas par un refus. Cette attitude satisfit la vieille demoiselle. Laissons-le à ses réflexions, se dit-elle, convaincue qu'elle serait suivie d'une entière soumission. Mais lui se tenait simplement ce raisonnement que tant qu'un mariage n'est pas fait, il peut survenir un événement qui le rend impossible. Or, il avait plus d'un mois devant lui, et dans un mois, oh, il passe bien de l'eau sous le pont des arts et bien de l'académicien dessus. Quand Jujube annonça le résultat de sa visite à Saint-Mandé, ce fut une joie d'autant plus vive que, sans désespérer absolument, on ne croyait pas à une justification si complète et une reprise spontanée des projets matrimoniaux. Aussi Jujube fut-il assourdi des questions d'Athalie au sujet de son prétendu. Elle voulait connaître ses explications, ses propres paroles, etc., etc. Bon, je ne l'ai pas vu, dit Jujube, mais sa tante m'a répété ses intentions qui n'ont pas varié. Tous deux viendront aujourd'hui. Et tout à son idée de gloriole, il parla de ses projets de noces, dans la coquette habitation de la propriétaire absente, des nombreux domestiques laissés aux ordres des occupants. Ce fut du délire et on ne parla plus d'autre chose. Même les voitures étant à la disposition de la famille, on les ferait atteler toutes pour promener les invités, au grand épatement des paysans et à la pensée de ce luxe de représentation. On ne tarissait pas d'exclamations, de rires, de propositions de toutes sortes. Ah, à ce moment-là, Jujube ne songeait guère à envoyer Athalie à son piano. Du reste, celle-ci avait bien autre chose à faire. Les toilettes à commander, le mobilier à acheter, etc., etc. Ah, dit-elle tout à coup, et mon éventail que Georgette doit me peindre. C'est convenu il y a longtemps, papa. Il faudra que tu en composes le sujet. Cette chère Georgette, va-t-elle être contente, elle qui me tend? Pendant toutes ces expansions, l'infidèle, malgré lui, tout en se berçant de cette philosophie qu'un événement imprévu peut se produire dans le courant d'un mois, se demandait ce qu'il allait faire et de dire en attendant cet événement problématique qui pouvait tout arranger. Ne pas revoir Georgette, quant à présent, il ne pouvait s'y résigner. Continuer ses rendez-vous quotidiens avec elle, mais elle lui rappellerait chaque jour la démarche promise auprès de sa marraine. Quel prétexte donnerait-il pour s'en abstenir maintenant qu'il s'était montré comme de retour à Paris? Avouer franchement sa situation, c'était la dernière décision à laquelle il put s'arrêter. Dans son embarras, il remit au lendemain son rendez-vous, se disant que Georgette, ne le voyant pas, croirait que sa tante l'avait retenu. Mais il y avait une visite qu'il ne pouvait reculer, celle à sa future famille, d'autant plus que Mademoiselle Pied-de-Vache devait l'accompagner. À l'heure convenue entre eux, la tante et le neveu se présentaient donc dans la famille Jujube et y étaient reçus avec un véritable enthousiasme. Madame Jujube sauta au cou de son gendre. Puis le plaçant devant Athalie, embrassez donc votre futur, dit-elle. Puis on embrassa la tante, puis ce furent des poignées de mains chaleureuses, des demandes affectueuses, de nouvelles du blessé, etc., etc. Enfin, nous allons donc avoir la paix, dit Jujube en riant, car c'était un enfer ici. Les larmes d'Athalie, sa mauvaise humeur, parce que vous ne reveniez pas, ajouta la mère. Pauvre petite, dit Mademoiselle Pied-de-Vache, adorez ce monstre-là. Oh, ajouta Jujube, elle ne pouvait pas digérer mille autres choses à ces dames. Elle attendait des choses à elle, personnelles. Mais c'est à vous que j'écrivais, dit Bengali, et j'ai cru que ce n'était pas la place. Sans doute, répliqua la tante, ces choses-là, on ne les dit à la personne elle-même. Ne parlons plus de cela, interrompit Jujube, tout à son idée de noces à la maison de campagne. Et il recommença à énumérer en détail ses intentions, quant au repas, au bal qui le suivrait, à la réception des amis et connaissances qu'on aurait pu inviter au repas, etc., etc. Et malgré cet enthousiasme qu'elle partageait avec son père et sa mère, malgré sa joie de revoir près d'elle l'homme qui devait être son mari, Athalie ne pouvait pas remarquer son air rêveur, ses sourires de complaisance et son peu d'empressement auprès d'elle. Mademoiselle Pied-de-Vache, à qui non plus n'avait pas échappé la contrainte de son neveu, et qui en connaissait les causes, dit « Bon, ce pauvre enfant est encore un peu souffrant, il n'a pas retrouvé cette gaieté que vous lui connaissez, et puis le mariage doit rendre sérieux. » Sur ce, elle jugea à propos de ne pas prolonger une situation embarrassante. « Allons, je l'emmène, dit-elle, à demain. » Puis à Bengali, « Embrasse ta fiancée et partons. » Et dans son soulagement causé par le départ, Bengali trouva dans le baiser d'adieu une conviction qu'Atali put prendre pour de la tendresse. Chapitre 18 « Ça devait arriver ». Ainsi que l'avait prévu Bengali, Georgette ne le voyant pas, le lendemain du jour où il l'avait quitté pour se rendre auprès de sa tante, pensa que, séparée de son neveu depuis longtemps, la vieille demoiselle l'avait retenue, et la jeune fille ne se préoccupa pas de ce premier manquement au rendez-vous quotidien. Cependant, elle était bien impatiente de voir son amant pour lui confier une joie qui pouvait devenir un cruel embarras si Bengali n'obtenait promptement le consentement de sa marraine à leur mariage. Georgette venait de reconnaître en elle un état que, dans quelques mois, elle ne pourrait plus dissimuler à personne. Quant à présent, cet état lui donnait un bonheur inconnu d'elle. Elle était heureuse à la pensée que son amant le partagerait et se hâterait de régulariser une situation qui ne pouvait se prolonger plus longtemps. Pendant qu'elle s'abandonnait à son rêve, Bengali était conduit par sa tante chez les bijoutiers, tapissiers, bédistes, marchands de linge, pour l'acquisition des cadeaux, meubles et tout ce qu'il faudrait au jeune ménage. Les jujubes, n'ayant que leur garde-robe à emporter, s'installaient immédiatement dans l'habitation de Ville d'Avray, où ils allaient faire du genre pour l'éblouissement de leurs amis et connaissances. Ils les avertirent d'abord par lettre de leur nouveau domicile pendant la durée de la saison, ajoutant qu'on serait heureux d'avoir leur visite tel jour qu'il leur conviendrait, Madame devant recevoir tous les jours, sans cérémonie, comme il convient à la campagne, et la lettre portait un post-scriptum, « Une calèche sera toujours attelée pour les amateurs de promenade. » Deuxième post-scriptum, « Il y a 8 chambres d'amis pour les personnes retenues à coucher. » Et Jujube, ne pouvant plus aller parcourir chaque jour à pied les rues de Paris, pour y montrer sa croix, prit une des voitures à sa disposition, et alors il fit ses promenades en calèche, laissant la mère et la fille tout à leurs occupations et à leurs causeries en vue du grand et prochain événement, et ne désirant, quant à présent, d'autre société que celle du futur époux sur lequel elle comptait bien tous les jours, comme il l'avait promis. Georgette aussi comptait bien sur lui. Elle avait été un jour sans le voir et elle attendait patiemment le jour suivant pour lui faire la confidence qu'elle croyait devoir le plonger dans une immense joie. Le lendemain donc, elle se rendit où Bengali l'attendait d'ordinaire. Elle eut un vif mouvement de bonheur, la voiture était là. Elle y monta, tomba dans les bras de son amant et en quelques tours de roue, on fut dans le petit appartement témoin de leurs entrevues quotidiennes. Tout d'abord, le jeune homme commença une explication sur 2 empêchements qui ne lui avaient pas permis d'aller voir Madame Maroquin. C'est impossible en ce moment, mon ami, interrompit la jeune fille. Ma marraine est malade. Oh, non, cela n'a rien de grave, la maladie à la mode. L'influenza, 12 à 15 jours de soins, de précautions pour ne pas se refroidir et n'y paraîtra plus. 15 jours devant lui, oh, ce fut un grand soulagement qui mit subitement notre amoureux à l'aise. Voyant alors sur les lèvres de Georgette un sourire inexplicable, l'entendant prononcer des demi-mots auxquels il ne comprenait rien, « Mais qu'as-tu donc ?» lui demanda-t-il. « On dirait que tu as quelque chose à m'apprendre. » Et dans un sourire d'une ineffable tendresse, la jeune fille articula tout bas. « Oui, quelque chose qui... »« Voyons, parle, ma chérie, ce n'est pas un grand malheur, si j'en juge à ta physionomie. » Alors Georgette lui prit la tête dans ses bras et lui dit quelques mots à l'oreille. Bengali se leva brusquement dans un état d'ivresse folle et couvrit Georgette de baisers entrecoupés des mots les plus tendres. « Je savais bien que je te rendrais heureux, lui dit-elle, et les baisers partagés de redoubler. » Puis la pensée de sa situation jeta une ombre sur le visage tout à l'heure si épanoui du jeune homme. Et à son tour, Georgette lui demanda, mais d'une voix inquiétante, « Mais qu'as-tu donc, toi aussi ?» Il prétexta le chagrin de quitter sa maîtresse en un pareil moment, car l'heure de la séparation était arrivée. Elle le consola dans les baisers d'adieu, et Bengali la quitta en lui disant « À demain, mon cher amour, à demain !» Leur joie, leur installation à la maison de campagne, leurs occupations, leurs projets, tout cela avait absorbé les dames Jujube et elles avaient complètement oublié Pistache. Elles restèrent sans mouvement et sans voix, en le voyant entrer tout guilleré. Bonjour, mesdames. Oh, je ne vous demande pas des nouvelles de votre santé, vous avez des mines superbes. Figurez-vous que j'allais tous les jours vous demander si votre portier, cette vieille bête de père Galafre, me répondait toujours « Il n'y a personne ». Quand il aurait pu me dire « On est à la campagne ». Et même ça n'est pas gentil à vous de ne pas m'avoir prévenu et envoyé votre adresse. Finalement, que j'ai fini partir à votre pipelet quand il m'a répondu pour la 10e fois. Il n'y a personne. Ah, ça, mais ils ne rentrent donc plus chez eux. Il m'a alors répondu, ben, ils n'y rentreront qu'à la fin de la saison, ils sont à la campagne. « Mais vous ne pouviez pas me le dire plus tôt, m'écriai-je avec une humeur bien légitime, n'est-ce pas ? Alors il me répond, ben, « Vous ne l'avez pas demandé ?» Enfin, je lui ai demandé l'adresse de votre campagne, et me voilà. » Les deux femmes avaient écouté ce monologue sans l'interrompre. « Oh, mais c'est charmant ici, quel joli séjour !» continua Pistache, et tout décontenancé en voyant l'immobilité des deux dames, oh, « Je vous dérange peut-être » demanda-t-il. « Non, quelques occupations, » répondit Madame Jujube. Pistache poursuivit, oh, « Ça ne nous empêchera pas de causer, car il y a bien 8 à 10 jours que nous n'avons causé de notre affaire. » « Quelle affaire ?» demanda Madame Jujube. « Quelle ?» fit Pistache interloqué. « Eh bien, pour savoir si c'est le moment de parler à Monsieur Jujube. Mais lui parler de quoi ?» Pistache regardait les deux jeunes femmes sans comprendre. « Eh bien, balbutia-t-il de mes intentions au sujet du mariage avec Mademoiselle Athalie. » Toutes les deux poussèrent une exclamation. « Encore ?» fit Mademoiselle Jujube. Pistache était stupéfait. Encore, répétait-il encore. Oui, encore, dit Madame Jujube. Comment ? Voilà plusieurs fois que cette plaisanterie dure, que ma fille et moi consentons au mariage. Nous nous tuons à vous répéter qu'il nous faut le consentement du père, et vous n'en finissez jamais, et après 8 à 10 jours où vous n'avez pas donné signe de vie, vous recommencez à demander s'il vous faut vous adresser à mon mari. Mais est-ce que vous croyez que papa va nous attendre éternellement ? Dit à son tour Athalie. Mais c'est madame votre mère qui m'a conseillé. Il a des vues sur une autre, mon mari, interrompit madame Jujube. Un autre qui, lui, s'est présenté et a parlé. Pistache fut atterré par cette déclaration. Il bafouillait des mots sans suite, ne savait quelle contenance tenir, était enfin dans un état de complet ahurissement. « Excusez-moi, dit Athalie, j'ai affaire. » Et elle sortit. « Voyez mon mari, ajouta madame Jujube, moi, je n'ai rien de plus à vous dire. » Elle sortit à son tour. Et le malheureux apothicaire se retira la tête perdue, et marchant comme un homme ivre. Le maître de la maison entra peu après cette scène et énuméra les noms des hôtes sur lesquels on pouvait compter. Il avait même invité M. Catpus, qui crèverait de dépit au milieu des fêtes dont il aurait été l'un des importants personnages sans ses prétentions à la dot. « Tu sais, mon ami, dit madame Jujube, que c'est aujourd'hui que mademoiselle Pied-de-Vache et notre gendre viennent s'installer ici. A-t-on préparé leur chambre ? Oh, les deux plus belles, tout est prêt, ils pourront venir quand ils voudront. Et le dessin de mon éventail, papa, demanda Athalie, il n'est que temps. Oh, je l'ai dans la tête, répondit l'artiste. Je n'ai qu'à le faire sur le morceau de satin blanc que tu m'as donné, tu l'auras dans 1 heure. Il passa dans son atelier pour exécuter le dessin emblématique qu'il avait conçu et, selon sa promesse, il le remettrait à sa fille émerveillée. À l'heure du dîner, mademoiselle Pied-de-Vache arrivait avec ses bagages, ainsi qu'elle l'avait promis, annonçant l'arrivée de son neveu après dîner seulement. Une affaire le retenait à Paris pour quelques heures. Ce furent des embrassements frénétiques, un de ces bavardages fiévreux, comme en donne la joie débordante. On fit visiter toute la maison à la vieille demoiselle, et on la conduisit à sa chambre, où ses malles avaient été portés. Une femme de chambre fut mise à ses ordres, et elle lui donna les clés de ses malles pour en tirer le linge et les robes et mettre le tout en place. Bengali arriva à 9 heures, fut reçu avec de doux reproches pour son retard, et la soirée s'acheva dans une conversation générale à laquelle il fit 1000 efforts pour prendre part, sans parvenir à faire disparaître les soucis qui s'assombrissaient son front. Athalie ne put s'empêcher d'en faire la remarque. « Il songe au devoir que va lui imposer sa vie nouvelle, » dit la tante. Le lendemain, Jujube, étalé dans la calèche, se dirigeait vers la route de Ville d'Avray, car il ne prenait pas le chemin de fer, lorsqu'il entendit ce cri « Bonjour, maître !» Il se retourna. C'était Maroquin qu'il avait ainsi interpellé. L'artiste fit arrêter sa voiture et serra avec l'effusion d'un homme heureux la main que lui tendait Maroquin. Il lui annonça qu'il retournait à sa campagne, l'engagea à y aller voir, et après les questions ordinaires sur la santé. « Eh, quoi de nouveau ?» demanda Maroquin. Il y en a chez moi, répondit Jujube. Du bon? Oh, de l'excellent! Je marie ma fille. Ah, bravo! Un bon mariage, je suppose. Oh, un jeune homme charmant, spirituel, riche. Ah, mon compliment, mon cher maître. Merci. Nous ferons le repas de noces, le bal et les réceptions à ma campagne, dans une habitation exquise, vaste, où je pourrai recevoir un grand nombre de personnes, dont vous serez bien entendu. Oh, cher maître, le jeune homme est d'une famille connue. Mon gendre n'a qu'une tante fort riche dont il sera l'unique héritier et qui, en attendant, le dote richement. Alors, quand je verrai mademoiselle, elle sera madame, madame je ne sais comment. Madame Bengali. Bengali ! S'écria un Marocain. Vous le connaissez ? Marocain, ne voulant pas dire au beau-père qu'il invitait tout le mal qu'il pensait de son futur gendre, répondit « Oh, oui, je me suis trouvé une fois avec ce jeune homme. Je ne le connais pas autrement. C'est un charmant garçon. Allons, allons, au revoir, Marocain. » Jujube donna l'ordre au cocher de repartir et la voiture s'éloigna. Oui, charmant garçon, se dit Marocain, qui aurait séduit la filleule de ma femme si nous n'y avions pas mis bon ordre. Et cette petite dame venait nous raconter qu'il la courtisait pour le bon motif. Bon, pour lui, oui. Chapitre 19. Un coup de théâtre. Une heure après, Marocain dit d'une air narquois à Georgette qui était venue voir sa marraine. « Eh bien, le monsieur au parapluie, qui devait venir demander ta main. »« Qu'a-t-il fait ?» demanda la jeune fille, anxieuse. « Ben, il se marie prochainement, avec ton ami Athalie, Jujubes. » Crois-tu que nous avons été prudents en te faisant changer de quartier ? Georgette eut la force de dissimuler sa douleur, feignit l'indifférence à cette nouvelle qui lui brisait le cœur, et ne donna carrière à son désespoir qu'à sa rentrée chez elle, où elle se jeta sur son lit en se tordant dans les cris et dans les larmes. Deux coups frappés à la porte la firent se redresser brusquement. Elle essuya ses yeux et se préparait à demander qui frappait lorsque la voix de Bengali se fit entendre. « C'est moi, dit-il, ouvre !»« Lui ? » s'écria-t-elle, « lui, ici ? » !»« Ouvre-moi donc, mon cher amour !» insista le jeune homme. « Mais que vient-il faire ici ? » se demanda la désespérée. Et elle ouvrit, pâle, tremblante, les paupières gonflées et rougies, et la bouche crispée. Bengali eut un mouvement d'effroi en la voyant. « Mais qu'as-tu donc ? » fit-il éperdu. Elle fixa sur lui ses regards pleins d'une inexprimable angoisse, et ses lèvres blêmes s'agitèrent sans pouvoir articuler un mot. « Mais qu'as-tu, mon cher ange adoré ? » dit-il en l'enlaçant. Elle s'échappa de ses bras, s'éloigna de lui. « Allez-vous-en » cria-t-elle, « nous ne devons plus nous revoir. » Il la regardait sans comprendre. « Ah oui !» s'écria-t-il tout d'un coup. « Tu sais, tout, oui, vous vous mariez. Que venez-vous faire ici ? M'offrir de l'argent, me promettre de ne pas m'abandonner, d'assurer le sort du pauvre petit être qui... Non, 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 j'ai pas besoin de vous. Mon enfant, je l'élèverai seul, je l'élèverai seul. » Bengali se jeta à ses genoux, lui saisit et retint de force ses mains qu'elle voulait lui retirer. « Écoute-moi, je t'en supplie, » implorait-il, « tu ne peux pas me condamner sans m'entendre. » Et il lui énuméra toutes les circonstances qui avaient abouti à cette situation terrible et sans issue. Dans l'état où, à son arrivée, il avait vu Georgette, Bengali, toute à l'émotion causée par l'apparition de sa maîtresse, n'avait pas songé à fermer la porte. Soudain, Georgette jeta un cri, des yeux fixés vers cette porte ouverte. Bengali se retourna et resta terrifié en voyant Atali pâle et immobile. Après un silence qu'aucun des trois personnages n'osait rompre, le jeune homme agita ses lèvres comme pour parler. « Ne me donnez pas d'explication, » dit doucement Atali. « J'étais là, j'ai tout entendu. » Puis, essayant de sourire, « D'ailleurs, continua-t-elle, « je ne regrette pas d'avoir acquis la preuve de ce que je soupçonnais bien un peu. » Puis, souriant de nouveau, « je n'ai jamais été bien certaine de votre amour, » dit-elle à Bengali. « Votre gaieté naturelle, que l'approche d'une union désirée aurait dû augmenter, cette gaieté vous l'aviez perdue. Vos airs rêveurs, préoccupés, vos soupirs mal dissimulés, oh, rien ne m'échappait. » Puis, après un silence, « mais pourquoi ne m'avoir pas confié franchement que votre cœur était à une autre ?» Et sur ces mots, regardant Georgette, qui ne savait que penser, que dire, elle lui sauta au cou. « Mais une autre dont je ne suis pas jalouse, va !» Un sanglot contenu étrangla sa voix et les deux jeunes filles enlacées mêlèrent leurs larmes. « Écoutez-moi, mademoiselle, » dit Bengali, « oh, je sais ce que vous allez me dire. » Cette rencontre de Georgette après votre demande de ma main, de Georgette que vous aimiez déjà, ce duel pour elle, les soins qu'elle vous a prodigués, ses veillées à votre chevet, et puis une faute qu'il faut réparer, pourquoi ne m'avez-vous pas confié tout cela ? « Mais votre père, votre mère me disaient que vous m'aimiez, je n'osais pas. » En vous épousant, sans répugnance, mais sans amour, car j'aimais mieux ailleurs, mais mes parents le savaient, j'obéissais au désir de mon père. Je suis adoré de celui que je désespère et que je sacrifiais en me sacrifiant moi-même. Vous avez pu être trompé par mon humeur qui n'était pas celle d'une femme qui se sacrifie, mais vous savez, dans ma famille, on a des satisfactions qui l'emportent sur celles du cœur. J'ai été élevé comme cela, mais si j'ai toujours cédé aux volontés de mon père, je lui résisterai pour ne pas épouser un homme dont je ne suis pas aimé. » Et embrassant de nouveau Georgette, « ma pauvre Georgette, c'est toi qu'il épousera, qu'il doit épouser, il le faut. » Les deux jeunes gens lui avaient saisi chacun une main et balbutiaient des paroles de reconnaissance. « Bon, ne me remerciez pas, » dit-elle. Puis, gaiement et tirant son éventail, « je t'apportais cela, comme c'était convenu, » dit-elle à Georgette. « Vois donc le dessin de papa, comme il est joli. Oh, c'est moins pressé maintenant, parce que mon autre mariage ne sera pas aussi prochain. Mais c'est égal. Peins-moi cela le plus tôt possible. Je suis impatiente de le voir, de le montrer. Allons, adieu. Voulez-vous m'embrasser, monsieur Bengali? Oh, avec bonheur! S'écria le jeune homme en lui couvrant les joues de baisers. Allons, dit-elle, ce sont des baisers de bonne amitié. Au revoir. Et Athalie, remontée dans sa voiture, versa un torrent de larmes. Chapitre 20. Les jeux de l'amour et de la pharmacie. Ce jour-là même, M. Catepus avait décidé de se rendre à l'invitation de Jujube, sans la moindre disposition au dépit que son hôte croyait lui causer. Aux théories de Jujube sur le mariage, théories dans lesquelles il n'avait pas vu d'allusions à son endroit, notre savant avait fait des réponses que Jujube avait interprétées à sa façon. La vérité est que Catepus était un célibataire, volontaire, encrouté dans son indépendance et adonné à peu près toute la science. Il acceptait d'ailleurs avec un plaisir les invitations, aimait les bons repas de famille que, comme garçon, il n'était pas tenu de rendre. Mais pas picassiette du tout, il ne manquait jamais d'apporter à la maîtresse de maison un magnifique bouquet et répondait ainsi à la politesse qu'il recevait. Une seule chose le préoccupait, son estomac un peu délabré, mais dans ses études scientifiques, il avait trouvé qu'autrefois, aux environs de Carthage, des médecins carthaginois avaient découvert certaines plantes qui vous refaisaient un estomac d'une vigueur à lutter avec celui des autruches. Il s'était fait envoyer de ces plantes par un correspondant d'une académie à laquelle lui-même appartenait et les avait fait distiller, préparer selon la formule antique par un pharmacien qui devait du tout composer un élixir merveilleux. Ce pharmacien, c'était celui dont Pistache devait acheter l'officine et Catepus s'était adressé à lui sur la recommandation des dames Jujube. Il alla donc réclamer sa fiole pour l'emporter avec lui à Ville d'Avray. Ce fut à Pistache qu'il s'adressa. Le malheureux garçon était dans l'état que l'on sait, à peu près abruti. Il écouta machinalement le client. « Ah oui, l'élixir carthaginois, dit-il, oui, oui, il est prêt. » Et il remit la fiole à Catepus, puis, resté seul, retomba dans son abrutissement. Il en fut tiré par le patron qui cherchait une fiole parmi plusieurs autres déposées à part. Ne trouvant pas ce qu'il cherchait, « Est-ce qu'on est venu prendre la teinture de cantharide ?» demanda-t-il. « La teinture de cantharide ?» fit l'abruti. « Non. Où est la fiole, alors ?» La fiole? Oui. Bon, je ne sais pas. Et Pistache se leva. Mais où était-elle? Demanda-t-il. Le pharmacien indiqua la place où il l'avait déposée, et tous deux se mirent à bouleverser les fioles, mais vainement. Puis, voyant la fiole préparée pour Catepus, le patron demanda. « Ce monsieur ne viendra-t-il donc pas chercher son élixir carthaginois ?»« Ben, il sort d'ici, il l'a emporté, » répondit Pistache. « Comment ? Il l'a emporté ? Le voilà !» Pistache resta anéanti. Il avait donné à Catepus la fiole de teinture de cantharide. Impossible de courir chez lui, on ne savait ni son nom ni son adresse. Pendant que le titulaire de l'officine et son futur successeur se disputaient et se lamentaient à la pensée de ce qui pouvait arriver de la substitution de médicaments, Catepus faisait l'acquisition d'un bouquet merveilleux pour se rendre au chemin de fer, tout heureux à la pensée des quelques bonnes journées qu'il allait passer. Athalie venait de rentrer et allait faire connaître à ses parents l'événement qui devait tout changer, quand le savant fit son entrée. La vue de son bouquet qu'il offrit à Madame Jujube lui valut les plus chaleureux compliments, et Jujube s'empara de son hôte pour lui faire admirer l'habitation où on espérait bien le posséder plusieurs jours. C'est mon intention, dit-il. J'ai apporté un peu de linge. Je suis peut-être indiscret, mais vous m'aviez fait promettre. Jujube l'interrompit et Madame Jujube se récria. Mais comment donc? Mais vous nous auriez désobligé en ne répondant pas à notre invitation. Votre chambre est prête. Et si vous avez besoin de quelque soin de toilette? Oh, 3 quarts d'heure de chemin de fer ne nécessite pas. Enfin, si vous vouliez cependant faire porter ce petit paquet à ma chambre, 2 chemises, 6 mouchoirs, 1 cravate, 2 chaussettes, mes pantoufles. Jean, portez tout cela dans la chambre de monsieur, la chambre verte, ordonna Jujube. Et le domestique emporta le petit paquet. À ce moment, mademoiselle Pied-de-Vache entrait, venant de faire une promenade. On lui présenta Catpus, un savant distingué, membre de plusieurs académies, qui voulait bien faire l'honneur à la famille de venir passer quelques jours près d'elle. « Enchanté, monsieur, dit la vieille demoiselle. Puis, je me suis permis, dit-elle, d'ordonner à la cuisine qu'on m'apporte ici un verre d'eau sucrée et de l'eau de fleur d'oranger. » On se récria, « Mais comment donc, mais vous êtes déjà ici chez vous. Ordonnez, les domestiques sont à votre ordre. « J'ai un si mauvais estomac, ajouta mademoiselle Pied-de-Vache. Je me trouve bien d'un verre d'eau sucrée avant les repas. »« Un mauvais estomac ! » s'écria Catpus. « Ma foi, madame, je suis heureux d'arriver aussi à propos. » Moi-même, j'ai un estomac déplorable. Aucun médecin, même parmi les spécialistes réputés, n'a pu me soulager. Et je ne dois qu'à moi-même les excellentes digestions dont j'ai le bonheur de jouir depuis que je fais usage de ceci 2 heures avant chaque repas. Et Catpus tira son flacon de sa poche, puis « Je demanderai également un verre d'eau, ajouta-t-il, mais sans fleur d'oranger. » À ce moment, la bonne, apportant le verre demandé par mademoiselle Pied-de-Vache, on lui ordonna d'apporter un verre d'eau pure. « Mais permettez-moi, madame, dit le savant, de verser dans votre verre un certain nombre de gouttes de cette composition. » Puis, voyant rentrer la bonne portant le verre d'eau à lui destiné, il ajouta « en en versant également dans le mien. » Et il versa le nombre voulu de gouttes dans chaque verre. Qu'est-ce que c'est que cela, monsieur? Oh, madame, c'est un médicament de ma composition, dont j'ai seul le secret, et que vous ne trouverez dans aucune pharmacie. C'est l'élixir carthaginois. Et Catpus raconta l'histoire ci-dessus exposée, donna aux plantes composant son élixir des noms barbares qu'on supposa être du carthaginois. Les 2 verres d'eau avalés, Jujube emmena Catpus et les 3 dames restées seules. Mademoiselle Pied-de-Vache mit naturellement sur le tapis la seule conversation à laquelle Athalie ne pouvait prendre part qu'avec un grand embarras, traduit par des réticences, des silences et des monosyllabes. C'est le retard de son fiancé qui lui met la tête à l'envers, dit la vieille demoiselle en riant. Mais que fait-il, ce lambin-là? Pourquoi n'arrive-t-il pas? Et avec une animation progressive, mademoiselle Pied-de-Vache se mit à parler de l'amour, de ses délices, de ses tourments, l'absence de l'être aimé, des transports des 2 amants quand ils se revoient. Et elle fredonna. Bonheur de se revoir après des jours d'absence. Et voyant ses yeux ardents et son visage coloré, Madame Jujube se demandait, mais qu'a-t-elle donc? Ah, le voilà! Fit tout à coup les grillards de vieille, en voyant d'entrer son neveu. Allons, ma petite, jetez-vous dans ses bras. Non, devant nous, elle n'ose pas, ajouta-t-elle. Laissons les deux amoureux ensemble. Et Bengali restait seul avec Atali. Mais on ne sait donc rien encore, demanda-t-il. Impossible en ce moment, répondit-elle, mais demain matin je dirai tout. Que vous êtes bonne et quelle amitié profonde et durable j'ai pour vous, dit le jeune homme. Et ils causèrent en bons amis du seul sujet qui pût les intéresser en ce moment. Jujube, qui avait promené quatre puces partout, lui dit « Oh, excusez-moi, mon gendre vient d'arriver. »« Allez donc, cher monsieur, allez donc, ne vous gênez pas pour moi. » Et resté seul, quatre puces, le visage animé se dit « Merveilleux, cet élixir, je suis tout. Oh, il ne m'a pas encore produit pareil effet. Je veux 120 ans. » Et il pirouetta joyeusement, faisant claquer ses doigts. « 20 ans, répéta-t-il, mais j'ai le feu au visage, alors je vais me le tremper dans ma cuvette. » Comme il entrait dans sa chambre, il y trouva une petite bonne à corte et fraîche qui venait de lui préparer son lit. « Pas si vous étiez avec moi, » répondit-il en lui lançant un regard ardent. La petite bonne se mit à rire. « Oh, êtes-vous farceur ?» lui dit-elle. Et elle se recula en voyant s'avancer vers sa taille les mains de quatre puces. « Ben oui, je suis assez !» Il s'avança davantage. « Ah non, non, à bas les mains !» fit la servante. « Qu'est-ce qui dirait ça en vous entendant causer dans le salon? Vous avez l'air si sérieux. » « Mais je suis aussi sérieux en ce moment !» Et s'avançant toujours, il reprit en riant. « Défais-tu aussi bien les lits que tu les fais ?» Et la bonne de rire plus belle. « On vient !» dit-elle tout à coup en se dirigeant vers la porte. Puis, comme il la retenait, « Laissez-moi partir, » ajouta-t-elle, « si on nous trouvait ensemble. »« Eh bien, dis-moi où est ta chambre et je te laisse partir. »« Ma chambre ?» Oui, soir, tu laisseras ta porte entrouverte, mais je vous dis que j'entends monter. Ta chambre, où est-elle? Et il montra un louis qu'il avait pris entre ses doigts. On montait, en effet, et la petite bonne indiqua sa chambre à quatre puces. Il était temps. Le valet de chambre apparaissait pour avertir notre savant que le dîner était servi. « Je descends, » fit-il. Il suivit le domestique après avoir questionné du regard la servante qui lui répondit par un signe affirmatif. Le dîner eut dû logiquement être égayé par les fiancés et par les époux Jujube, mais les deux premiers n'étaient pas en humeur joyeuse, semblaient rêveurs, échangeaient quelques mots à voix basse, et des regards plus inquiets que tendres. Le repas n'en fut pas moins d'une gaieté bruyante et peu à peu grivoise, puis presque érotique, grâce aux allusions lancées par Mademoiselle Pied de Vache au sujet de la nuit de noces, et à la stupéfaction des époux Jujube, le grave Cadpus riposta par les réflexions les plus salées. Et monsieur et madame Jujube de se demander « Mais qu'est-ce qu'ils ont ?»« Ce quatre puces, mais qu'est-ce qui aurait dit ça de lui ?» Et la vieille, sans qu'on l'en priât, se mit à chanter la chanson de Béranger. « Combien je regrette mon bras si dodu, ma jambe bien faite et le temps perdu. » Et l'heure du coucher étant venue, les époux Jujube, en se retirant dans leur chambre, de se demander de nouveau, « Mais y comprends-tu quelque chose? Mais qu'est-ce qu'ils ont ?» Le lendemain matin, à 10 heures, Mademoiselle Pied de Vache n'avait pas encore paru. On pensait que la vieille demoiselle avait prolongé son sommeil plus que d'ordinaire, et on ne s'en occupait pas autrement. Jujube était plus surpris de n'avoir pas vu Catpus, dont il connaissait les habitudes ultra-matinales. « Bon, il s'est grisé au dîner, dit-il, ça se voyait bien à ses propos. « Ah, le voilà qui va descendre, ajouta-t-il en entendant sa voix. » C'était bien la voix du savant. Il causait avec la petite bonne qu'il avait rencontrée dans un couloir. « Ah, petite gaillarde, lui disait-il, quand tu t'y mets, tu donnes pas ta part au chien. » « Ah, c'est bien spirituel, ce que vous dites là, » lui répondit-elle sèchement. Catpus ne comprenait pas. « Comment, dit-il, c'est bien spirituel? Il me semble pourtant lionne. Monsieur me demande où est ma chambre, je la lui indique, laisse ma porte entr'ouverte toute la nuit. Eh bien, je vais aller te trouver. Vous? Moi? Elle est forte, celle-là. Comment elle est forte? Et la pièce de 20 francs que je t'ai mise dans la main? À moi? Oh, je ne sais pas ce que cela veut dire. Si vous êtes allé quelque part, c'est pas chez moi. Justine, cria Jujube à ce moment, voyez donc si mademoiselle Pied-de-Vache est indisposée et demandez-lui si elle a besoin de quelque chose. Bien, monsieur. Et la bonne laissa la Catpus tout stupéfait, se demandant « Mais comment, mais est-ce que dans l'obscurité, je me serais trompé de porte ?» Bientôt, des cris et des rumeurs jetaient le trouble dans la maison. Catpus courut s'informer de ce qui arrivait. Il rencontra Jujube pâle, bouleversé. « Qu'y a-t-il donc ?» demanda le savant. « Oh, oh, cher monsieur, une chose épouvantable. La vieille dame, vous savez bien, la vieille dame avec qui vous avez dit des gaudrioles hier à table. Oui, une gamme très gaie, eh bien, on vient de la trouver morte dans son lit. Qu'est-ce que vous me dites là? La vérité, je viens de la voir, la pauvre vieille. Son neveu, ma fille, ma femme... Tout le monde est près d'elle. Sans doute une rupture d'anévrisme, une apoplexie foudroyante, on peut voir cela à son visage. Exprime-t-il la souffrance? Non, du tout, au contraire, elle avait le sourire aux lèvres, et chose inexplicable, une pièce de 20 francs dans la main. Catpus resta anéanti. Et il comprit qu'en effet, il n'était pas allé chez la petite bonne. Jujube annonça immédiatement à Athalie et à Bengali que leur mariage serait forcément retardé par le cruel événement. C'était leur ouvrir la voie des explications. Tous deux étaient d'accord pour faire connaître nettement leur intention. La fin, si douce d'ailleurs, de la bonne tante, rendant à son neveu toute liberté de rompre des projets si près d'aboutir et d'épouser Georgette, et Jujube vit bien qu'il n'y avait pas à revenir là-dessus. « Encore un mariage raté !» s'écria-t-il avec désespoir. « Non, mon ami, répondit Madame Jujube, toujours pratique. Sur ce, elle prit une feuille de papier à lettres, écrivit dessus quelques lignes et la montra à son mari, qui lut ce qui suit. « Ah, ça, cher monsieur Pistache, qu'attendez-vous définitivement pour parler à mon mari? Il est tout disposé pour vous. Finissons-en, faites votre demande. Demain au plus tard, oh, sinon... Il disposera de la main d'Athalie en faveur d'un autre. Fin.